Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, votre émission sur Sud Radio entièrement consacrée au savoir-faire français et notamment aux joyaux de notre patrimoine. Aujourd'hui, je vous propose une émission consacrée aux Journées européennes du patrimoine qui se déroulent en ce moment partout en France depuis hier. Vous pouvez encore aller visiter les coulisses des plus beaux monuments français, mais également des plus belles entreprises. Alors pour ceux qui hésitent encore et qui n'ont pas d'idée, eh bien Sud Radio est là pour vous.
Sud Radio, c'est ça la France. Midi, midi 30, Nathalie Schrengirma.
Pour notre première escapade ensemble, je vous propose d'aller du côté de Orthez, découvrir ensemble une très belle entreprise de linge de maison qui date de 1919 et dont la spécialité est le tissage. Il s'agit de la maison Moutet, qui fête cette année son centenaire. Et pour en parler, eh bien, la cinquième génération avec Benjamin Moutet. Bonjour Benjamin.
Bonjour à tous.
Bienvenue sur les antennes des Sud Radio.
C'est gentil, merci à vous.
Alors, ça va être difficile de résumer 100 ans d'histoire. Il va falloir faire simple. Mais pour rappeler un petit peu l'histoire de la maison, ça a commencé avec Jean-Baptiste Moutet, qui était donc votre arrière-grand-père ?
Plus que ça, puisque je suis la cinquième génération.
Ah bah oui.
Jean-Baptiste, c'est la première génération. Et cette année, on fête 100 ans d'industrialisation, c'est-à-dire 100 ans où on a mécanisé notre activité. Et on a choisi cette date parce que pour nous, combattre aujourd'hui et maintenir la fabrication à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est essentiel. Donc c'est 100 ans de fabrication, mais l'histoire remonte à 1874, exactement, avec Jean-Baptiste. Voilà.
Qui a acheté un petit commerce de tissus au tout départ à Orthez, hein, c'est ça ?
C'est ça, voilà. Au début, il était vendeur simplement de tissus, en 1874. Donc on n'a pas choisi cette date-là, parce que nous, on considère que vraiment, ce qu'on porte aujourd'hui, c'est un message de création et de fabrication. Donc on s'est raccroché à la date de 1919, à laquelle son fils Georges a mécanisé l'activité.
C'est lui qui reprend l'entreprise et qui va développer donc l'activité de linge de table.
C'est ça, exactement.
Et il y a une femme qui a été très importante, que vous connaissez très bien, c'est Catherine Moutet, à la fin des années 90, qui elle aussi va avoir cette bonne idée, face aux difficultés rencontrées par le textile français, de positionner la maison Moutet sur le haut de gamme.
C'est ça, l'histoire de la famille, l'histoire de la maison a suivi l'évolution du textile en France, c'est-à-dire qu'on est parti tout petit, on est monté très gros à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et dans les années 70 avec plus de 250 personnes. Ouais. Et ensuite, on a connu les délocalisations, le choc pétrolier, tout ça qui a affaibli la société. Et il a fallu attendre les années 90 avec ma mère pour repositionner la création, la couleur, pour un nouveau départ qui nous porte encore aujourd'hui.
Donc l'entreprise a réussi donc à perdurer dans le temps face à une concurrence de plus en plus agressive, et je pense notamment aux pays émergents, d'où l'importance du haut de gamme, de l'axe créatif également.
L'axe créatif et la fabrication à Orthez, c'est ça qui nous a sauvés, oui. C'est le fait d'avoir maintenu les machines et le travail à Orthez. Ça nous a permis d'innover. Si on est toujours là après 5 générations, c'est que chaque génération a su innover à son époque. Et le fait d'innover, c'est essentiellement dû à notre capacité à s'approprier l'outil de travail et chercher des couleurs qui vont bien, les matières. Donc chez nous, c'est une collection qui est très riche pour tous les goûts. Et ça, on le doit à des générations et des générations d'expérience.
Il y a une signature qui est très forte, ce sont ces fameuses rayures. Ce linge a 7 rayures. Là, on est vraiment dans le patrimoine de la région, donc ce linge dit basque. Et encore aujourd'hui, elles sont là, ces rayures.
C'est un patrimoine historique parce qu'on est dans une région qui est très agricole, les Pyrénées-Atlantiques, même les Landes ou les Hautes-Pyrénées. Donc pour les travaux au champ, avant l'arrivée du tracteur, on avait besoin de vêtements résistants pour les ouvriers, mais aussi pour les bêtes, pour protéger les bœufs. Donc patrimonialement, quand vous achetiez une maison, vous achetiez aussi les rayures qui vont avec la maison. C'était comme un emblème.
D'accord, oui.
Voilà, et ça se maintient aujourd'hui, c'est ce rapport très fort à la matière et à ces 7 bandes, comme vous dites, qu'on appelle aujourd'hui linge basque.
Alors justement, toute cette histoire, tout ce savoir-faire, eh bien il est ouvert au public pendant ces journées européennes. Alors qu'est-ce qu'on peut voir exactement en allant visiter les coulisses de la maison Moutet ?
Alors cette année, pour nos 100 ans, on a monté toute une exposition qui explique l'histoire des cinq générations, les innovations en leur temps, les produits en leur temps. Donc c'est un parcours très bien documenté avec un historien. Donc c'est vraiment très intéressant sur l'histoire du textile dans la région, mais aussi l'histoire des produits du territoire. Et ensuite, vous avez accès à la fabrication, on vous explique chaque étape pour construire un tissu. On part du dessin jusqu'à la bobine de fil, le tissage, la confection. Voilà, c'est vraiment tout un parcours qui dure 45 minutes et qui est vraiment très argumenté. Donc ça vaut le déplacement.
Alors, que cherchent les visiteurs en général ? Vous sentez que c'est plutôt la fabrication qui les intrigue ou bien c'est ce mélange de passé, présent ?
Oui, c'est la fabrication, parce qu'aujourd'hui, sur les Pyrénées-Atlantiques, on n'est que 3 à tisser. Donc, c'est vraiment très rare. Les autres, c'est plus dans la distribution ou juste dans la finition. Mais toutes ces étapes industrielles qui maintiennent sur le territoire des jeunes, ça fascine. Aujourd'hui, nous, on est une vingtaine avec la moitié de moins de 35 ans. Donc, une belle équipe dynamique. Et c'est vraiment intéressant à voir comment les nouvelles générations se sont appropriés le travail des anciens.
Oui, alors du coup, le produit prend une autre valeur parce qu'on imagine, on peut voir tous les corps de métier qu'ont dû justement travailler ensemble pour obtenir ce tissu. Alors vous parliez de la nouvelle génération. Vous, Benjamin, vous êtes la 5e génération. Donc c'est sur vous que repose la suite.
Ce qui m'engage, c'est de pouvoir transmettre comme j'ai reçu. Ce que nous on propose avec l'équipe en place, c'est justement de s'inscrire dans notre temps, d'innover sur les matières premières, sur les dessins, sur l'engagement environnemental, pour qu'ensuite les futures générations s'approprient en leur temps ce qui conviendra le mieux. Et c'est vraiment une chance, et voilà, c'est vraiment un épanouissement de tous les jours de pouvoir créer comme on le fait.
Comment on innove justement sur les matières premières ? Est-ce que la matière première la plus utilisée aujourd'hui, c'est laquelle pour vous à la Maison Moutet ?
C'est le coton.
Oui.
C'est le coton. L'alternative, c'est le lin. On s'est engagé depuis 5 ans, nous, sur un programme avec les agriculteurs de la région où on replante du lin et on le transforme pour en faire des bobines.
Ça tombe bien, on est quand même les leaders mondiaux du lin en France, entre la Normandie, le Nord-Pas-de-Calais.
Oui, exactement. Et puis dans le Béarn et dans les Landes, ça a toujours poussé. Donc le lin a toujours existé. Donc nous, on le remet au goût du jour. On explique que c'est une alternative très intéressante. La problématique de demain, c'est la gestion de l'eau. Ouais. Le coton demande beaucoup d'eau. Le lin n'en demande aucun. Il n'y a pas besoin d'arrosage. Donc c'est vraiment une alternative très intéressante.
Oui, beaucoup d'eau, beaucoup de pesticides. Donc le lin, effectivement, un textile naturel. En plus, assez costaud, assez rigide. Donc pour du linge de table, effectivement, ça prend tout son sens.
Oui, ça prend son sens sur la solidité. Et puis je vous dis encore une fois, sur le rapport historique, ça a existé. C'est pas une plantation qu'on importe ou quoi que ce soit. Elle pousse très bien. Cette année, on a fait plus de 10 hectares en bio, c'est-à-dire sans traitement avant la plantation. Et ça a très bien fonctionné. La plante est magnifique. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de promesses pour demain. Et il y a beaucoup de travail pour le filet. Comme vous disiez, la France est le premier producteur mondial. Mais on a tellement désindustrialisé notre pays qu'on a perdu toutes nos filatures. C'est-à-dire qu'on sait le récolter, mais ensuite, on ne sait plus le transformer en bobine. Donc, nous, on s'est engagé dans ce programme-là où on réindustrialise également cette filature. Donc c'est tout un programme à la fois agricole et industriel qu'on porte pour demain.
Ça fait plaisir d'entendre ça. Vous êtes de plus en plus nombreux justement à vouloir réindustrialiser cette filière du lin en France et éviter justement de faire voyager ce lin jusqu'en Asie pour qu'il revienne filé et pour pouvoir enfin le façonner.
Ouais.
Et vous avez décroché également le prestigieux label entreprise du patrimoine vivant il y a de ça un peu plus de 10 ans. Donc ça aussi, j'imagine que c'est une vraie fierté.
C'est une vraie fierté. Aujourd'hui, nous, on se bat au quotidien en province et à Paris pour faire valoriser ce label entreprise du patrimoine vivant, qui est le seul label public avec les indications géographiques. Les autres que vous voyez en grande surface ou ailleurs avec des drapeaux bleu, blanc, rouge, ce sont des certifications privées. L'État doit s'investir et nous, on se bat politiquement pour que l'État garde la main sur ses entreprises, sur son savoir-faire. Entreprise du patrimoine vivant permet de déstructurer le territoire, c'est-à-dire que on sort des grandes agglomérations et on maintient le travail dans les campagnes. Encore une fois, c'est la différence entre le travail et les emplois. Entreprise du patrimoine vivant, c'est un travail que chaque génération s'approprie, innove et développe ensuite des emplois. Mais on n'y a pas de raccourci sur des choses sacrifiées.
C'est un label qui effectivement permet de mettre en avant toutes ces entreprises détentrices d'un savoir-faire rare et précieux. Et vous êtes que 1400 entreprises en France à avoir ce prestigieux label. Eh bien, bonne journée aujourd'hui, Benjamin, car il y a encore des visites de prévues.
Encore aujourd'hui, on vous accueille toute la journée. N'hésitez pas à passer un coup de fil ou visiter notre page internet ou sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant de toute notre actualité.
Très belle journée. Merci encore, Benjamin Moutet, entreprise Moutet.
Merci, à bientôt.
Allez, je vous propose désormais de découvrir une autre entreprise qui a ouvert ses portes le temps de cette 36e journée du patrimoine, un autre emblème fort. Cette fois-ci de la gastronomie de la Provence qui régale nos papilles du côté d'Aix-en-Provence. Je vous en dis pas plus, à tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bienvenue dans C'est ça la France sur Sud Radio pour évoquer ces journées du patrimoine qui se terminent ce soir, l'occasion de découvrir les coulisses de très très belles entreprises françaises. Allez, je vous propose justement d'aller ensemble vers une confiserie unique qui a traversé l'histoire, le Calisson d'Aix.
Sud Radio, c'est ça la France. Midi, midi 30, Nathalie Schrengirma.
Bonjour Alexis Bertura.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio.
Merci.
Vous êtes responsable tourisme chez Roy René. Oh là là, les calissons d'Aix. Là encore, c'est une maison centenaire et familiale, leader sur le marché des calissons d'Aix et tout ce qui est confiserie provençale. Comment vous expliquez un tel succès ?
On explique parce que le Calisson d'Aix fait partie du patrimoine gastronomique de la Provence. C'est vraiment emblématique de notre région sud ici, puisqu'on y mélange de l'amande de Provence et Méditerranée, du melon confit qui vient d'Apt et du sirop de sucre. C'est une vraie tradition et du coup, ce succès, il est lié à nos valeurs, à ce terroir qui est particulier. Et puis ici, maintenant, on essaie de le mettre encore plus en avant.
Et la recette de ce calisson, et la recette de ce calisson.
Alors la recette, elle est inchangée, hein. En plus, on reste sur une recette traditionnelle depuis 500 ans, même si le roi René n'a que 100 ans. Bientôt, en tout cas, on est sur la recette traditionnelle de 500 ans à Aix-en-Provence.
Alors je tiens à rappeler que chaque année, près de 15 millions de Français désormais vont visiter les coulisses des entreprises françaises. Notamment, beaucoup de ces entreprises sont inscrites sur Entreprises et Découvertes, qui est spécialiste justement de la découverte d'entreprises. Eh bien, vous avez plusieurs sites dédiés au tourisme du savoir-faire.
Tout à fait. En fait, on a 4 sites différents qui sont ouverts au public, qui produisent toujours quelque chose, et où l'objectif est bien d'ouvrir les portes et de montrer le savoir-faire dans les ateliers, soit par des baies vitrées qui montrent en fait ce qu'on produit, et nos différents métiers. Donc ici à Aix, on le fait avec plaisir sur le calisson d'Aix et tous les calissons que nous déclinons et le nougat de Provence, puisqu'on adore le nougat aussi. c'est des savoirs spécifiques, mais on le fait aussi dans une toute petite confiserie dans les Abos de Provence à Bannon, sur tout ce qui est pâte à tartiner biologique. On le fait aussi dans une biscuiterie formidable à Fort-Calquier, dans un tout petit village où on a une équipe formidable qui travaille là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment un engouement qui est fort pour le public. Là, ce matin, ce dimanche, il y a beaucoup de visites guidées pour les journées du patrimoine et les gens sont friands de découvrir quels sont nos métiers, quelles sont les matières qui composent les produits et comment on fait.
Alors justement, que peut-on voir, notamment pour ce fameux calisson d'Aix ?
Alors, pour cette journée du patrimoine très particulière, donc tout ce week-end et aujourd'hui dimanche, du coup, on a ouvert notre jardin. Il faut savoir que la fabrique, elle est entourée de 3 hectares de jardin menés de façon biologique. Et on a une très grande amanderie qu'on donne à visiter en primeur cette année pour les journées du patrimoine.
Donc ils voient tout, quoi, la matière première dans les jardins avant qu'elle soit travaillée.
C'est ça. Alors ils voient la matière première, en tout cas les amandes qui vont donner les amandes, donc cette importance du végétal et de la biodiversité. Et ensuite on va dans le musée surplombe les ateliers. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, on ne peut plus rentrer dans les ateliers. Et c'est très bien ainsi, mais on a des grandes baies vitrées qui expliquent tout ce qui s'y passe dans les ateliers, plus d'autres supports médias, donc des vidéos, des pompes à odeur, des jeux qui permettent de découvrir le travail des confiseurs et ensuite de comprendre comment on sublime en fait les matières premières issues du terroir provençal.
Donc on découvre les matières premières, les étapes de production, les étapes de fabrication. Donc j'imagine qu'il y a peut-être aussi une partie musée où on alterne justement entre l'histoire de la maison et le présent.
Tout à fait. En fait, ce qu'on aime à raconter à nos visiteurs, c'est notre histoire, puisque nous, on est le fruit d'une histoire longue, puisqu'on est la 4e génération qui fait les calissons à Aix. Et du coup, on montre notre premier atelier qui était au plein cœur d'Aix, qui était un tout petit atelier. Et on montre les étapes, les évolutions, toujours le respect de la tradition. Et aujourd'hui, la possibilité de parler directement au public sur, par exemple, l'éco-conception de nos packaging, ou sur le lancement d'une gamme biologique, ou les filières agricoles sur lesquelles on est impliqué, notamment l'amande de Provence, bien sûr, mais aussi la pistache. Donc tout ça est dit par les guides. Ça peut être moi d'ailleurs, mais ça peut être tous les guides qui sont là avec d'autres supports. Voilà.
Alors justement, comment sont organisées ces visites ? Ce sont des visites payantes, gratuites. Au niveau des guides, c'est des guides internationaux pour, j'imagine, peut-être un public aussi qui vient de partout pour justement découvrir ce patrimoine de la région. Comment tout ça est-il mis en place?
Alors nous, c'est vraiment professionnalisé au niveau ici maintenant du Roi René et d'ailleurs du groupe Olivier Bossan, puisque on est ouvert toute l'année au public, quasiment 7 jours sur 7. On a 3 jours de fermeture dans l'année, donc c'est quand même pas beaucoup. Et on a donc professionnalisé l'accueil avec des guides qui peuvent parler français, anglais, allemand et bientôt espagnol. Et on organise des visites guidées à partir de 9 personnes. Pour les journées du patrimoine, c'est un peu particulier. On ouvre notre site le samedi et le dimanche gratuitement, avec des créneaux de visite à réserver, bien entendu. Et là, on ouvre tout et c'est gratuit. Voilà.
Alors, au niveau de ce public qui vient visiter les coulisses de cette belle maison, vous avez une petite idée de sa zone géographique? Est-ce que c'est des gens qui sont du coin, des locaux, qui viennent d'autres régions? Vous avez des petites études que vous menez à ce niveau-là?
Alors, des études, on n'est pas encore assez anciens, entre guillemets, dans le tourisme, parce que ça fait pas très longtemps qu'on a ouvert notre musée. On accueille aujourd'hui à peu près 70 000 visiteurs par an, 15 000 visites guidées et le reste des personnes en libre, puisqu'on peut accéder librement et gratuitement au site toute l'année. On sait que pour les journées du patrimoine, c'est un peu particulier, ce sont vraiment des locaux. C'est des gens qui habitent pas très loin, dans la région sud, on va dire jusqu'à 1h30, 2h du site, et qui profitent de cette journée pour venir faire du patrimoine local. Et nous, ça, on est extrêmement ravis parce que c'est une de nos missions, parler du patrimoine local avec le Calice Index, mais aussi des filières agricoles. Le reste de l'année, on a la chance d'avoir des clientèles qui viennent d'un peu partout, donc de France, bien entendu. Là, ce matin, on avait des Hauts-Savoyards d'Annecy, on était très contents. Et ça peut être de partout, puisqu'on accueille des groupes d'Américains, des groupes d'Espagnols. Voilà. Donc c'est le tourisme de savoir-faire aujourd'hui, ça fait rayonner la France un petit peu partout, puisque c'est notre valeur ajoutée, quoi, les savoir-faire d'exception qui sont mis en valeur.
Vous avez quelques données chiffrées, vous savez, en moyenne, combien de visiteurs viennent visiter les coulisses des Calissons chaque année?
Alors les Calissons, oui, on les chiffre pas trop mal désormais. Donc c'est 15 000 visites guidées, donc visites qui sont encadrées. Et à peu près un peu plus de 50 000 visiteurs en libre, qui viennent sans les guides, mais qui accèdent librement au musée, qui est construit pour. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez être sans les guides avec plein de supports médias. Donc ça fait à peu près 60 000 visiteurs par an. Et pour la région sud, ça commence à être important. On est classé, on serait la 5e entreprise la plus visitée de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est très loin derrière les premiers, hein, parce qu'il y a des très...
Il y a les Vérybiotes également qui sont très bien placés. Voilà,
Biotes, c'est exceptionnel. je crois qu'ils reçoivent 600 000 visiteurs.
C'est ça, 600-700 000.
Dragonard, 1 million, plus d'un million. Donc on est très loin. On est un petit poussé, mais de toute façon, on ne pourra pas aller beaucoup, beaucoup plus haut. Notre site est ce qu'il est. Mais on veut faire de l'accueil touristique qualitatif et expliquer surtout aux gens le savoir-faire de nos maîtres confiseurs.
Et est-ce qu'on a le droit de déguster des calissons quand on vient vous voir?
Ah, c'est pas un droit, c'est un devoir, c'est une obligation. Alors, la visite est toujours pleine de dégustations. On commence par le calisson d'Aix traditionnel, on enchaîne par des amandes. Ensuite, on change de saveur en fonction de la saison. Donc là, on rentre dans l'automne, donc on pourra vous faire peut-être goûter un calisson châtaigne et vanille, voilà, par exemple, pour avoir un nouveau goût. Oui, bien sûr, c'est une visite qui veut être gourmande avant tout, et ensuite aussi instructive.
J'allais vous dire, alors comment donner envie à nos auditeurs du Sud Radio d'aller découvrir les secrets d'un savoir-faire ancestral comme celui-ci? Je pense que là, rien que par la dégustation, là, vous avez mis l'eau à la bouche.
Tant mieux.
Encore merci beaucoup Alexis Bertura, je rappelle que vous êtes responsable tourisme chez Roi René. Eh bien, très belle journée de visite encore aujourd'hui. Merci beaucoup Alexis.
Merci beaucoup, très bonne journée à vous, au revoir.
Au revoir. Allez, on quitte l'univers du savoir-faire patrimonial pour celui de la tech, de la French Tech avec Thibaut, notre French Trotter.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors je crois que vous êtes allé à un grand rendez-vous de la tech.
Exactement, d'ailleurs je vous ai rapporté un petit cadeau, la casquette du France Digital Day.
Ah bah dis donc, la grande classe avec des belles couleurs.
Alors, le France Digital Day, c'est une rencontre annuelle qui réunit des startups, des investisseurs et aussi des hommes politiques. Ça se passait il y a quelques jours au musée des Arts Forains à Paris et j'y rencontrais plein de jeunes pousses, comme par exemple celle d'Aurélien.
Je suis CEO de Permettez-moi de construire.fr, qui est une boîte qui a 3 ans, qui est basée à Lille. Et en fait, on facilite l'obtention des permis de construire pour les particuliers qui veulent faire des travaux partout en France.
Rassurez-moi, les projets de permis en bonne et due forme.
Oui, en bonne et due forme, bien sûr. On fait en sorte que les projets soient compatibles avec les réglementations d'urbanisme local en France. C'est quelque chose qui est hyper compliqué en France. Donc nous, on propose une nouvelle expérience full digitale qui permet de vraiment vivre son projet très, très sereinement.
Alors, quelle est l'humeur ici de la journée à France Digital ?
Alors, ce qui est cool là, c'est que bah, je viens de passer une demi-heure au lounge. On parle avec des start-upers comme nous, effectivement, qui ont des petites boîtes de vin, mais on parle aussi avec, par exemple, Jacques-Antoine Grandjean, patron de Vente Privée, Frédéric Mazella, patron de Blablacar. Il y avait Gérald Darmanin, le ministre.
Vous avez échangé avec eux ?
J'ai échangé avec eux, j'ai resté à la main, on a trinqué, et puis voilà, que c'est super.
Dites-nous, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, par exemple ?
On parle de nos boîtes, en fait, on présente nos boîtes, il nous donne son avis. On échange des cartes et puis après, s'il se passe quelque chose, c'est bien. S'il se passe rien, c'est toujours une bonne rencontre. Quoi.
C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de barrière entre les membres de cet écosystème de la French Tech.
Ouais, c'est ce que me disait Aurélien d'ailleurs. Bah, tout le monde se parle, c'est très bienveillant. Puis il y a une vraie entraide entre les entrepreneurs, qu'ils soient petits ou grands. Bah, d'ailleurs, j'ai rencontré d'autres créateurs, notamment le créateur d'une application qui permet de prendre vos commandes dans les restaurants pour éviter l'attente.
Pas c'est mal ça.
Ouais, c'est très malin. Et je vous propose d'écouter Riyad.
On a lancé Miap, qui est une solution digitalisation du process de commande pour les bars et les restaurants.
Très à la mode.
Exactement. L'idée est d'offrir une nouvelle expérience aux consommateurs, puisque aujourd'hui on sent qu'il y a une certaine frustration au niveau de l'attente et il y a une vraie recherche de gain de temps du côté des consommateurs. Et du côté des restaurateurs, il y a un process de commande qui est à optimiser.
Le projet en est où ?
Aujourd'hui, en fait, on a développé le projet auprès de 15 établissements. On a testé avec eux le produit pendant un an. Et donc là, l'objectif pour nous, c'est d'accélérer notre développement et pouvoir proposer notre solution à l'ensemble du marché.
Donc c'est le but de votre présence ici. Vous attendez un rendez-vous avec un investisseur, je crois ?
Oui, c'est bien ça. L'idée pour nous aujourd'hui, pour accélérer, c'est d'être accompagné par des investisseurs pour pouvoir rayonner à l'échelle nationale. Aujourd'hui, on est présent sur deux villes, on est à Paris et à Bordeaux, et on aimerait avoir un rayonnement à l'échelle nationale.
C'est bien, il y a vraiment des exemples très divers dans ce domaine, notamment là de la food tech. Alors là, j'ai entendu que des hommes. Est-ce qu'il y avait des start-upeuses ?
Ben oui, il y en avait. Oui, il y a beaucoup de start-ups dirigées par les femmes. D'ailleurs, il y a une étude qui a montré qu'elles étaient plus rentables. Et j'ai eu un coup de cœur pour celle de Marion.
Qu'est-ce qu'elle propose, Marion ?
Ben Marion propose une solution pour aider les personnes handicapées à accéder à Internet. Écoutez.
AdaptMweb permet d'ajouter des fonctionnalités d'accessibilité à un site Internet pour des personnes en situation de handicap, donc déficience visuelle, troubles cognitifs, troubles de la lecture ou simplement signes de fatigue ou pour des seniors. L'idée, en fait, c'est de personnaliser son confort de lecture en ligne. Moi, aujourd'hui, ma cible, c'est les entreprises qui veulent offrir à leurs utilisateurs ce système d'accessibilité numérique.
Donc, pas besoin d'investir dans du matériel ?
Exactement. L'idée, c'est qu'en fait, les personnes en situation de handicap n'investissent pas dans du matériel qui est onéreux. Mais là, c'est plutôt un service gratuit que les entreprises leur mettent à disposition.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette entreprise ?
Un ami malvoyant, on a eu une discussion ensemble, il me disait qu'il n'avait pas accès à l'info sur Internet, sur des sites de médias, ou notamment sur des sites e-commerce. Et je me suis dit qu'en 2019, c'était quand même une hérésie de mettre 20% de la population de côté. Et donc c'est de là qu'est partie l'idée.
Merci beaucoup Thibaut. Donc la suite de votre aventure à la France Digital Day la semaine prochaine.
Si vous voulez.
Entre temps, passez un bon dimanche, écoutez Sud Radio et allez visiter les coulisses des entreprises françaises. Vous avez encore jusqu'à ce soir et vous pouvez bien évidemment réécouter votre émission préférée en podcast. Bon dimanche.